Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est une semaine particulière qui s'annonce. Nous entrons dans la semaine sainte. Je vous propose de découvrir cette figure carmélitaine de Sainte Maravillas de Jésus, décédée en 1974, très contemporaine, canonisée sous le pontificat de Jean-Paul II le 4 mai 2003. Elle fut une fondatrice infatigable de Nouveau Carmel. Elle cachait sous sa simplicité joyeuse de grandes grâces d'union à Dieu. Aujourd'hui, ce sont des missions populaires, des cantines pour les plus démunis, des maisons d'accueil, des garderies et des écoles qui se réclament de sa protection. Une très belle prière de Sainte Maravillas, très courte, qui dit « Ce que Dieu voudra, comme Dieu voudra, quand Dieu voudra ». Pour intervenant, je reçois Éric de Russe, enseignant en philosophie, marié depuis près de 20 ans. Bonjour Éric de Russe.
Bonjour.
Et puis auteur de nombreux livres, et plus particulièrement sur Sainte Edith Stein. Oui. Aujourd'hui, nous laissons Edith Stein pour laisser toute la place, et vous m'avez dit oui, je vous en remercie, à cette très belle figure carmélitaine, oui. Sainte Maravillas de Jésus. Et vous m'avez dit oui, pourquoi ?
Pourquoi ? Sans doute pas pour des raisons humaines, parce que c'est une âme qu'il est difficile d'approcher. Tant son expérience spirituelle est profonde, déconcertante, et en même temps, les fruits que son existence offerte à porter sont tellement beaux, tellement lumineux, tellement pleins d'espérance pour aujourd'hui, que j'ai accepté. Puis par ailleurs, avec mon épouse, nous avions pu nous rendre il y a plusieurs années dans certains carmels fondés par Mère Maravillas de Jésus ou repris par Mère Maravillas de Jésus, la Incarnation de Avila, Mancera de Abajo, d'Uruelo, enfin l'Aldehuela, où nous avons pu rencontrer sa nièce aussi. Donc c'est une amie aussi, voilà.
On peut très vite, dans ces premières minutes, oui. Et en cette semaine sainte, relire les grandes étapes et oui. De sa vie, donc le début et, oui. Et puis la fin de vie. On
oui.
Vous écoute.
Elle naît donc le 4 novembre 1891 à Madrid, c'est la quatrième enfant d'une famille, son papa est marquis, ambassadeur auprès du Saint-Siège, donc un homme très engagé, elle bénéficie d'une vie, on va dire, familiale très porteuse, elle pratique les arts, enfin elle a une très très grande complicité avec son père. Elle est baptisée le 12 novembre 1891, confirmée en 86. Bon, pendant son enfance, il faut noter l'influence de sa grand-mère, Doña Patricia Muñoz, une femme très pieuse qui lui enseigne aussi la charité, elle lui apprend à prier, à lire la vie des saints. Il faut noter aussi dans l'enfance le contact avec la nature, hein, l'éveil d'une âme contemplative qui s'éveille aux traces de Dieu dans la nature. Hein. Sa famille avait des propriétés familiales près de Murcia où elle se rend, et puis bien sûr sa première communion. Le 7 mai 1902, et elle-même nous dira beaucoup plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a le désir de se donner tout entière au Seigneur dans la vie religieuse.
D'ailleurs, je crois qu'elle racontait volontiers que le Seigneur l'avait choisi dès le début.
Mais oui, dès le début. Alors ça, c'est assez étonnant, cette lumière très claire qu'elle a sur l'appel, elle qui connaîtra ultérieurement tant d'obscurité, tant de nuit, et avec son âme d'enfant et sa radicalité déjà, à 5 ans, elle relatera avoir fait un vœu de chasteté hein, dans le grenier de la propriété, d'une propriété près de Murcia. Et comme elle pensait qu'il fallait un témoin, c'est l'une de ses servantes qui sera témoin de ce vœu. Et elle avouera plus tard que sa vocation de la vie religieuse naquit de là. « J'ai reçu la grâce de la vocation en même temps que l'usage de la raison. J'ai senti l'appel du Seigneur avec tant de clarté que j'étais aussi décidée à être religieuse. » Elle l'écrira à l'un de ses pères spirituels en 1935.
Alors, ce qui la caractérise aussi dans son tempérament, intelligente, volontaire, oui. courageuse, oui. déterminée, oui. Son caractère est gai, expansif, oui. Et douce à la fois et gentille.
Exactement, elle est très appréciée en société pour sa sérénité, sa bonne humeur, son entrain. Elle fréquente le théâtre puisqu'elle prend part à la vie aussi de la haute société. Elle joue du piano, elle est aussi très très attentive aux pauvres. Elle visite les quartiers défavorisés. Mais vous voyez, dans cette enfance finalement assez porteuse, la mort de son père en 1913, le 19 décembre, va être un moment difficile puisqu'elle était très 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 proche de son père. Elle l'assistera jusqu'au bout. Et sa maman restant seule, Maravillas va s'en occuper, alors même qu'elle souhaite, et qu'elle le dit à sa maman, répondre à l'appel pour la vie religieuse. Le Carmel, puisque c'est au Carmel qu'elle entrera, c'est par une de ses cousines, Dolores, qu'elle en entend parler, et elle découvre les carmélites de Saint-Joseph d'Avila. Et puis, elle lit Saint-Jean de la Croix, ça il faut le dire aussi, c'est quand même un auteur qu'elle aime beaucoup. On raconte qu'elle connaîtra jusqu'à la fin de sa vie, elle récitera par cœur de mémoire le cantique spirituel de Saint-Jean de la Croix. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs ont dit qu'elle était peut-être plus proche de Saint-Jean de la Croix du point de vue de sa trajectoire spirituelle que de Thérèse d'Avila, même si on l'a si comparée.
Mais en même temps, elle est comparée aussi à la grande Thérèse
d'Avila. Voilà,
de Thérèse d'Avila. Des points communs entre Maravillas et Thérèse d'Avila.
Mais le père de son âme semble être quand même Saint-Jean de la Croix.
Le père de son âme.
Voilà, semble être...
C'est joliment dit.
Oui, Saint-Jean de la Croix. Et c'est une amie qui l'amènera visiter en Carmel, à Madrid, le Carmel de l'Escorial. Et néanmoins, son directeur spirituel lui demande d'attendre et de se taire. Et de se taire pendant un an, une année de mise à l'épreuve, où elle va se dévouer auprès de sa maman, de sa famille. Il y a une épidémie de grippe en 1918 qui touche les siens. Beaucoup tombent gravement malades et c'est dans ce contexte-là qu'elle obtient l'accord de sa maman à entrer au Carmel de l'Escorial. Hein. Voilà.
Elle a 27 ans.
Elle a 27 ans, c'est un Carmel qui a été fondé en 1910, hein, qui est un Carmel fondé par le Carmel de Salamanque, et c'est un Carmel qui est dédié au Sacré-Cœur. Alors ça c'est important parce que le Sacré-Cœur jouera une très très grande importance dans la vocation spirituelle, et j'allais dire une vocation qui est historique aussi, on va le voir, hein, parce qui est liée au destin de l'Espagne. Voilà. Et donc le 21 avril 1920, elle prend l'habit au Carmel de l'Escorial et elle fera ses premiers vœux le 7 mai 1921. Voilà, ne vivre que pour Dieu et se donner dans la charité et l'humilité, c'est vraiment son idéal de carmélite.
Et un appel reçu dès la plus tendre enfance.
Dès la plus tendre enfance.
Donc, et là, elle avait 5 ans.
Elle avait 5 ans.
Elle entre au Carmel 22 ans plus tard.
C'est ça. Donc elle a su le porter dans une grande patience, se sanctifiant dans le monde.
Elle a su attendre, elle a su obéir.
Ah mais complètement. C'est une âme d'une extrême docilité qui a un sens de la providence divine.
Quel est le charisme
Je pense que c'est...
qui se dessine
Un abandon, déjà. Un abandon à la volonté de Dieu manifestée dans les événements. C'est-à-dire à la fois, elle ne doute pas de l'appel reçu, mais elle laisse les circonstances la conduire parce qu'elle y voit la main de Dieu. Elle a une conscience très aiguë que Dieu est provident et que tous les événements sont conduits par Dieu et l'appel sera confirmé par les événements, mais au temps de Dieu, elle sait attendre. Elle sait attendre. Et ça, c'est quand même le signe d'un très grand abandon. Elle est très détachée d'elle-même et de ses projets, sans pourtant jamais douter de l'appel intérieur. Mais elle va le porter sereinement. Voilà.
Et dans l'obéissance hein,
dans une très grande obéissance à ses pères spirituels. Hein, elle a assez tôt des pères spirituels, mais aussi à sa mère, à son entourage et aux circonstances. Je le répète, elle n'a pas encore une règle, comme elle l'aura en tant que religieuse, mais la vie est sa règle, si je puis dire, parce qu'elle déchiffre, elle sait lire intérieurement les événements, et sachant que c'est la main de Dieu qui conduit tout. Donc elle a un sens, me semble-t-il, de la conduite de Dieu à travers les événements, donc de la providence divine très aiguë. Hein, voilà.
Alors une sainte maravilla, ce que oui. nous découvrons avec vous, Carmélite. Comment parler au monde d'aujourd'hui ?
Je pense qu'elle a, d'abord elle est contemporaine et elle a vécu dans une époque très très troublée. Elle a connu notamment la guerre d'Espagne et puis voilà, elle est morte en 74, donc elle a traversé quand même on peut dire le siècle. Et puis elle a connu, je pense du point de vue spirituel, ces nuits assez étonnantes, nous en reparlerons, qui la rapprochent. Je crois aussi du mystère des nuits que connaissent tant, sans savoir dans quel mystère ils sont plongés. Elle, elle l'a su. C'est vrai aussi qu'elle était plongée dans un mystère. Il y avait une dimension mystique de
un
sa nuit.
Comme Mère Thérésa.
Complètement.
Ouais, très contemporaine aussi.
Voilà, elles ont été rapprochées.
Qui avait connu aussi 50 ans de nuit.
Voilà, c'est ça. Elles ont été rapprochées sous ce rapport. Mais ce qui me frappe, c'est de montrer que les choses ne se jouent pas dans la sensibilité chez Mère Maravillas. Et elle est peut-être donnée à notre temps, un temps qui est tellement dans l'émotionnel, dans la recherche du sensationnel, de la sensibilité. Elle nous montre que la vie spirituelle se joue à un niveau bien plus profond, qui est un niveau théologal de la foi, de l'espérance, de la charité, de la volonté, et que ça ne se joue qu'à un niveau qui échappe à l'être humain, mais on juge en pas ses fruits. Et Mère Maravillas, il y a quand même des fruits magnifiques.
Éric de Rus, l'intervenant, je vous propose d'approfondir cette figure toute donnée et offerte dès demain à la même heure.
Merci.
À demain.